Une offre de loisirs 100% gratuite et 100% sans écran à retrouver sur radiofrance.fr et sur l'appli Radio France.
Avec Radio France, un podcast par jour, des acquis pour toujours.
France Inter, première radio de France.
Bonjour Daniel Morin.
Comment ça va, Annie ?
Ça va très bien, ça
s'entend. Dis donc, j'ai écouté cette émission, c'est fantastique. Qu'est-ce qui s'est passé avec votre voix ?
Je vous raconterai, hors antenne.
Ah, j'espère, oui, ça m'a l'air d'être bien dégueulasse.
N'importe quoi. Mais
allez, vous soignez.
Ma famille écoute, vous savez.
C'est vrai ? Dis donc, elle vous écoute encore.
Quel est le programme ?
Marine Delterme pour The Sympathizer sur HBO.
Bonne émission,
j'espère.
Mon cher Daniel.
À demain.
Et les autres, à demain.
Salut.
Peut-être. Les toutes dernières informations avec Laetitia Gaillet.
Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen et Xi Jinping à la même table. Réunion trilatérale en ce moment à l'Élysée. La présidente de la Commission européenne vient plaider une concurrence équitable avec la Chine. Les différents commerciaux entre Bruxelles et Pékin sont nombreux, notamment sur les subventions du gouvernement chinois aux véhicules électriques qui sont accusés de fausser la concurrence. En même temps que Xi Jinping est à Paris, Reporters sans frontières a organisé ce matin une action devant l'Arc de Triomphe à Paris pour protester contre la venue du président chinois en visite d'État en France. RSF entend rappeler que 119 journalistes sont actuellement détenus en Chine. Une attaque de drones ukrainiens sur la Russie. Les autorités de la région russe de Belgorod, proche de la frontière avec l'Ukraine, affirment que 6 personnes ont été tuées et 35 autres blessées ce matin. Par ailleurs, on apprend via le ministère de la Défense russe que Vladimir Poutine, lui, a ordonné dans un futur proche des exercices nucléaires qui impliquent des troupes positionnées près de l'Ukraine. Il s'agit, dit le Kremlin, d'une réponse à la menace et aux provocations occidentales. Emmanuel Macron a par exemple reparlé récemment de l'envoi de troupes au sol en Ukraine. Selon l'ancien chef d'état-major des armées en France, François Lecointre, c'est d'éveiller les consciences face à la réalité de la guerre. Pour le conflit entre Israël et le Hamas, les négociations sur une trêve sont dans l'impasse. Encore aujourd'hui, les deux camps restent inflexibles. Une nouvelle réunion avec les médiateurs internationaux doit avoir lieu aujourd'hui au Qatar. Pendant ce temps, l'armée israélienne continue de frapper la bande de Gaza. 16 personnes sont mortes cette nuit à Rafah et dans les environs. L'armée israélienne qui continue de planifier une offensive massive sur la ville au sud de l'enclave. Elle encourage la population d'ailleurs à se diriger vers les zones humanitaires. Une opération d'évacuation est en cours. Elle est limitée à 100 000 personnes, dit encore l'armée israélienne. Les auteurs de la fusillade hier à Sevran, Seine-Saint-Denis, sont toujours en fuite. Deux hommes qui ont tiré à plusieurs reprises sur les deux victimes. Sans doute un règlement de compte lié à un trafic de stupéfiants puisque les deux victimes étaient connues aussi pour des violences et trafic de drogue. France Inter, 11h03.
France Inter, 17h. Marie Misset et Marine Baousson.
Vous pensez que c'est une bonne idée, vous, de mélanger de l'oignon et du chocolat ?
Comme ça, non ?
Mais laissez-vous convaincre par Raphaël Aumon, notre invité chimiste de ce lundi.
Jusqu'ici, tout va bien. L'émission qui chahute les idées, tous les jours à 17h sur Inter.
Faire les voyages dont on a toujours rêvé une fois à la retraite, oui, ça arrive. Acheter la maison de ses rêves au Pays Basque et s'y installer, oui, ça arrive.
Mon seul critère, c'était vue sur mer.
Oui, ça aussi, ça arrive. Parce que tout arrive dans la vie avec AG2R La Mondiale. Constituez dès maintenant une épargne retraite pour préparer une retraite pleine de possibilités. Et comme 15 millions de personnes qui nous font confiance, devenez acteurs de votre avenir. Rendez-vous avec nos conseillers ou sur ag2rlamondiale.fr. AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain. Message à caractère publicitaire, tout investissement comporte des risques, y compris le risque de perte en capital.
France Inter, partenaire de la carte blanche à François Morel, du 14 mai au 23 juin à la Scala Paris. Trois spectacles à ne pas manquer. Tous les marins sont des chanteurs pour fêter l'amour et l'amitié. Le dictionnaire amoureux de l'inutile, une lecture à deux voix des meilleures pages d'un dictionnaire, pas comme les autres. Et j'ai des doutes, un spectacle musical en hommage à Raymond Devos. Un artiste, François Morel, pour trois spectacles, du 14 mai au 23 juin à la Scala Paris. Un événement France Inter.
La bande est encore plus originale aujourd'hui.
Comment ça ?
Parce qu'il y a le cumulateur, Daniel Morin, et Leïla Kaddour.
Oui.
La voix, The Voice.
The Voice, absolument, Laetitia Gaillet. C'est nous. On se retrouve tout à l'heure. Nagui arrive, hein, ne vous inquiétez pas.
Bon.
Ah, comment ça ? Et masquez votre déception, enfin, qu'est-ce que ça veut dire ?
Mais non,
j'espère qu'il vous entend en ce moment même.
Il avait Xi.
Ah, ben, franchement, j'ai hâte qu'on soit à midi. Et ben là, on commence à faire un petit peu. On a les chocottes, Laetitia Gaillet, je vous le dis, moi. Allez, à tout à l'heure.
Maman et moi. Maman.
vous sur France Inter avec Lisa Donne-Moitié, avec Tanguy Pasturant, Daniel Morin est avec nous, Julien Santini également. Et notre invité aujourd'hui, c'est Marine Delterre.
Merci d'être arrivée à l'heure.
Merci. Je suis bien la seule.
Bonjour Marine. C'est une petite course contre la montre ce matin. Vous n'êtes pas sans savoir que nous recevons en France la visite d'un président étranger.
Il vient ici.
Il vient te voir pour le blind test.
Toujours le problème avec les étrangers.
Bon. Il est très bon en blind test. Nagui arrive dans un instant. Aucune inquiétude. Ça bouchonne un peu, on va dire, hein, à Paris, tout simplement.
Ouais.
Je ne sais pas. Il est en voiture.
Il faut qu'il se mette au Vélib.
Mais on est là, tout va bien. Prudence, Nagui, on t'attend. Prudence. Aucun problème, on va commencer, on va chauffer un peu l'ambiance. Avec ce petit blind test. Parce que
Il a peur de ne pas le faire. Mais du coup, vous le découvrez.
Bien sûr, je le découvre. Et j'explique même que, puisque nous recevons Marine Delterre, mais que nous allons parler ensemble de cette superbe série The Sympathizer, c'est ça, je le prononce bien ?
Sympathizer,
voilà. On sent qu'il y a.
Comme l'apéro appetizer.
Okay. Ah, ça, c'est un bon truc mnémotechnique. Absolument. On va parler de cette série que HBO dévoile.
HBO,
absolument, avec Marine. On va commencer en musique avec ce blind test. Vous êtes prêts, premier titre.
Lisa.
Rolling Stones. Absolument. Et c'est quoi le
titre? Shelter.
Sympathy for the Devil.
Sympathy for the Devil, absolument.
Lisa.
Beaucoup sur les films de Scorsese.
Un premier point pour Lisa Delmoitié. On poursuit. Deuxième titre.
C'est quoi ça ?
La batterie.
Certes.
Bien joué. Daniel, une réponse ?
Je vous donne le titre. Oui. Sympathy for the Devil.
Lisa. Rolling Stone, mais c'est pas Rolling Stone.
Springsteen.
Non, c'est pas Springsteen.
Non.
Clapton ? Non.
Oh, waouh !
Si. Mais quel frimeur, celui-là !
Si, bah si, on a commencé, il est 11h07, j'étais obligé de commencer. Si, alors est-ce que tu peux trouver, toi ?
J'entends pas.
Tu peux trouver ?
J'entends pas.
Il entend rien. Ça fait longtemps qu'il entend rien.
Nagui arrive. Attends, c'est la première fois que tu vas jouer, en plus.
Il est bon.
Après, c'est Demi, Motorhead.
Ah, bravo !
C'est lui. Il a préparé le blind test.
Ouais, mais c'est un point quand même pour Nagui. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ?
Attends.
Et donc, tu as des réponses.
Et t'avais qu'à le faire.
Nagui, c'est déjà bien qu'il se souvienne de ce qu'il a fait.
Tu peux continuer. Attendez, là, il y a un vrai match. C'est la première fois qu'il joue avec nous.
Tu rigoles.
Bonjour Nagui, soyez le bienvenu dans cette émission.
Enfoiré de président chinois. Allons-y.
Non, un peu de référence.
Diplomatiquement, ça va être compliqué ce qu'on raconte là.
Troisième titre.
Tanguy,
oui.
Je ne veux pas travailler. Pink Martini, Pink Alibi.
C'est ça,
Pink Martini.
Sympathique. Ah bon, le titre, c'est Sympathique.
Oui. Ah, sympathique.
Oui, on cherche interprète, je te rappelle.
C'est le premier point.
Je l'avais.
Ah oui.
Ça va.
Je veux seulement l'oublier.
Tu mets Anne Hidalgo et Xi Jinping dans la même ville.
Coupez-lui son micro.
Ça faisait longtemps.
On est dans un moment musical.
Oui, c'est vrai.
Ça va pas te permettre de redescendre comme ça, de respirer.
C'est pas grave de rater une émission en fait. Ne s'écroule pas.
Pas la tienne.
Quatrième titre, êtes-vous prêts ? C'est parti. Pendant qu'ils sont des câlins.
Ah bah ça c'est Massive Attack.
Bravo. Attends là-dessus.
Sur la musique.
Un très beau point de Marine Delterme là.
Un très beau point. C'est vrai qu'il y a des points plus ou moins importants.
Non mais c'est un des morceaux préférés.
T'es absent 3 minutes et le règlement change.
Il est pas content d'être arrivé à la bourre.
C'est l'histoire de la vie ça.
Encore une chanson des Disney, ouais. Un point pour Nagui, c'est hyper.
Non,
il y a un point pour toi. Pardon, c'est moi qui parle. Il y a un point pour Lisa. Il y a un point pour Tanguy. Il y a un point pour Marine. Allez, on est parti. Cinquième titre.
Ah ça.
Bon, il l'a, mais il dit pas.
Non, j'ai pas.
Mais c'est toi qui l'as fait le blind test.
Ouais.
J'essaye de lire à l'envers sur la feuille, mais je vais voir.
Ça, c'est trop hard rock pour moi.
C'est que de l'instru.
C'est que de l'instru.
Il y a un nom de couleur dans le titre.
Les Yellows.
Non. Les Red Hot Chili Peppers.
Non.
Ça pourrait, ouais. Les Black Sabbath.
Non. Les Black Keys.
Non, c'est pas Black.
Les White Stripes.
Les Brown. Les Blues.
Je vais pas vous dire la couleur, sinon ça sort plus.
Les Orange.
C'est ton t-shirt.
Les Violets.
Green Day.
C'est un instrumental que t'as choisi.
Green Day.
Ouais, c'est dur. Et ça s'appelle espionnage. Ah, pour faire écho là aussi.
C'est quel rapport avec
c'est malin. C'est malin de m'accorder là. C'est
ah oui, j'ai bien trouvé. C'est à toi, Lisa, que j'ai donné le point.
C'est à. Non, c'est à moi.
Oui, oui. Non, j'ai pas trouvé.
C'est moi qui l'ai grindé.
Ah, c'est toi, 2 points. Pardon,
j'ai dit vert. Regarde mon t-shirt, je suis pas sûr que ça compte.
C'est pas faux. 2 titres, il reste l'avant-dernier.
Obao.
Groupe très connu.
Une blague pour les vieux quand même.
Il y a 22 secondes d'intro. Vous avez le temps de vous décider.
On fait des intros en fait.
Je prends une douche, je reviens.
En 22 secondes, je prends le temps.
Mais ton peignoir.
C'est bien, c'est sympa.
C'est, smooth, ça.
C'est très inattendu, c'est un groupe que vous connaissez très très bien.
News.
Écoutez bien là.
Mais c'est les Doors.
Oui, oui,
les Doors.
Marine. Bravo, c'est Marine Alvarez. The Spy.
Victoire de Marie.
Ah, The Spy. Ça a un rapport avec la série?
Bah oui, parce que oui, je sais pas si t'as vu, mais il y a un spy quand même dedans. Sérieux? Tellement bon espion qu'il l'a pas remarqué.
Ouais. Et maintenant, c'est le super banco, vous êtes prêts?
Allez.
C'est maintenant que tout se joue, donc Marine, si vous remportez ce point. Pour l'instant, vous êtes en tête à égalité avec Nagui, donc ça se joue entre vous. Très sauf bien. Si il y a un hold-up de Julien. Holo, Julien.
Oui, pardon,
c'est
bonjour.
Parti. Yolo.
Ah, c'est vous, Julien Santini.
J'ai honte.
Lisa, Michael Jackson.
Non.
C'est bien ça.
C'est bien en tout cas.
Ah ouais, c'est bien.
Oh,
c'est beau.
Ah, dommage, hein. C'est super.
Wycliffe Jean. Wycliffe Jean, les Fugees.
Mais qu'est-ce que c'est que ça?
Il y a Wycliffe Jean. Et avec qui?
Shakira.
Absolument.
C'est quoi?
Je vais le donner à Tanguy quand même, parce que c'est lui qui dit Wycliffe Jean pour commencer.
Donne-lui, il gagne jamais le pauvre.
C'est une victoire de Tanguy Pasturon.
Et c'est... Bravo. Et c'était plaisir.
Bande originale. Bravo. Avec Nagui et Leïla Kadour.
Comment ça va, Marie Nettel?
Ça va très très bien. Je suis toujours de bonne humeur quand je viens chez vous.
Le culot du gars, c'est comme s'il n'était pas arrivé en retard.
Bravo, Leïla.
Non, mais c'est inédit, mais il n'y a pas Nagui. Je dis, ah bah écoutez, non, c'est très bien.
Non, c'est pas inédit, mais.
Ça arrive.
Il est revenu
pour les vacances.
Je ne dirais pas d'où vient ma haine.
Oh, on n'a pas compris, on l'a compris à demi-mot.
Mais comment vous avez fait? Vous étiez là à l'aube? Ah oui, toi, t'es là à 6h du matin.
Ouais. Moi, je suis arrivé en cours.
Je suis assis à cette fois.
Il faut préciser très rapidement que tout Paris
est bloqué.
Est bloqué. Voilà, tout Paris.
C'est-à-dire, c'est Paris,
vélo,
quoi.
Pour la visite, pardon. Ouais.
Pas en vélo.
Non, mais à métro, par exemple.
Déjà, on dit à vélo et.
Oh là là, l'émission va être tendue.
Ah, ouais, je suis très énervé.
Je crois que ça va être la deuxième émission de l'antenne à imploser.
Non, mais je cherche ma répartie, j'arrive.
Parlons.
À vélo, tu vas laisser sur ta selle.
Vu comme ça roule, t'as dans l'arrivée. The Sympathizer, l'histoire donc de cet espion double espion, triple espion. Ouais, c'est absolument totalement fou. C'est une mini-série dans laquelle vous jouez Marine Dater, mais surtout. C'est carrément du cinéma, tellement c'est produit, tellement c'est extrêmement bien réalisé.
Pas n'importe qui, en plus.
Racontez-nous. Alors justement, je te laisse le dire, parce que moi, je suis en coréen, je ne suis pas très bon.
Bah non, mais Park Chan-wook, je pense que c'est bien.
Ah, voilà. Oui, oui. On va quand même être la sortie comme ça, ici.
Est-ce que c'est vrai que c'est la première fois de votre vie que vous avez, ou en tout cas depuis pas mal d'années...
Vous rencontrez Park Chan-wook?
Non, que vous avez passé un casting des essais?
Ah oui, non, quand je débutais,
j'entends.
Mais là, des tapes, ce qu'on appelle, c'est-à-dire depuis le Covid, on se filme dans sa salle de bain et on fait des petites scènes. Oui, c'était la première fois.
Voilà. Ça faisait longtemps?
Oui, jamais.
Et que vous aviez le track, comment ça se passe?
Non, bah, je me suis dit, tant qu'à faire une tape que j'ai jamais vraiment faite, je vais m'amuser. Donc j'ai pris un copain à moi, acteur anglais très bon. Et on m'a dit, allez, on se lâche, on s'amuse. Donc j'ai improvisé, j'ai inventé, j'ai changé le texte. J'ai fait une vraie proposition, en fait.
D'autant que le personnage était italien au début.
Exactement.
Et que vous êtes arrivé avec Monique.
Voilà, du coup, Monique a dit Monique quand ils m'ont pris.
Très voilà.
Ouais, c'est joli. Donc ça, c'était bien.
Et avec une scène intime avec Robert Downey Jr. qui joue. Alors sur les papiers et tout, dans la presse, j'ai vu 4 rôles, moi j'en ai vu 5.
Oui, il y en a 5.
On est d'accord.
Ouais.
Il y a le curé. On dit pas tout. Donc il y a des rebondissements, il y a 7 épisodes, ça se binge, mais alors d'une force incroyable, parce qu'il est impossible qu'à la fin d'un épisode vous disiez bon, allez, je laisse tomber, je passe à autre chose.
Surtout qu'il y a un savant jeu de retour d'aller et venu qui font qu'on explicite des choses qu'on n'avait pas forcément compris avec l'histoire du personnage, donc on est tenu en fait.
Oui, oui, ça c'est
très bien réalisé.
C'est du cinéma en fait.
Totalement. Il y a une bande son de dingue. Je crois que c'est l'un des premiers morceaux que l'on entend dans la série. avec ce jeune qui est métis, mi-français, mi-vietnamien. Et d'ailleurs, tout le monde le harcèle à l'école en le traitant de moitié. Et sa maman a une formule formidable en disant non, t'es pas la moitié, t'es le double, au contraire. Deux fois plus fort.
C'est une jolie formule.
Et c'est là où il devient agent double. Jouer avec des acteurs que l'on admire, ça vous est déjà arrivé dans votre vie. Mais quand c'est Robert Downey Jr., c'est-à-dire qu'on arrive à la légende, est-ce que c'est vraiment impressionnant ou finalement c'est un métier comme un autre et vous êtes tous des actrices et des acteurs?
Non, c'est impressionnant, mais en fait lui il est tellement extraordinaire déjà dans son parcours, dans son, ce qu'il est. Et dans sa générosité, comme tous les grands acteurs, il donne beaucoup, il écoute beaucoup. En tout cas, nous, on a tout de suite connecté. Et je le regardais. Enfin, c'est un animal, quoi. C'est une sorte de c'est un danseur. C'est, il est tout le temps en mouvement. Il est carré.
Et c'est un transformiste. Il a quatre rôles, quatre personnages, avec une scène incroyable dans un restaurant où les quatre jouent ensemble. Ça, c'est d'une dinguerie de réalisation. Je faisais pause. Je voulais voir comment ça fonctionne. Évidemment, on n'y arrive pas. C'est comme une tour de magie. Il faut rester enfant. Et se dire bon bah c'est comme ça et tant mieux, on se fait embarquer.
Non mais moi je le voyais le matin au maquillage, donc en fait il était à côté de moi et je le voyais se transformer parce qu'on mettait des prothèses, on le changeait. Donc peut-être que c'est ça aussi qui fait que c'était pas vraiment Robert. C'est pas Robert, mais c'était drôle. Non, on s'est entendu.
Vous êtes dans la série décoratrice, productrice du décor, en tout cas. C'est vous qui installez un décor, qui reconstitue un décor.
Le Vietnam à Los Angeles.
Qui va chambouler le héros parce que c'est un espion, on est dans la guerre du Vietnam. La guerre du Vietnam est à la fois une catastrophe, évidemment, côté américain, et on l'a toujours vu au cinéma, du côté américain, on l'a rarement vu du côté vietnamien, c'est ce que le film porte, justement. Et en disant, il y a deux guerres quand il y a une guerre, il y a celle que l'on a vécue, et celle que l'on raconte après.
La guerre de la mémoire,
La guerre de la mémoire, c'est ça, qui a totalement marqué et imprégné cet espion qui se retrouve envoyé par le camp communiste, par Vietnam du Nord, aux États-Unis, en disant, au contraire, tu nous seras beaucoup plus utile aux États-Unis que si tu restes au Vietnam après la victoire du Nord. Et là, il va être totalement perturbé, chamboulé, il va vivre plusieurs vies, lui aussi, sans changer de visage. Mais il ne saura pas finalement dans quel camp être.
Mais dans mon épisode, on est au cœur du sujet. C'est-à-dire que, justement, un grand metteur en scène américain, qui est joué par Robert Downey Jr., qui a des Oscars, enfin, complètement fou, va faire un film sur la guerre du Vietnam.
Hamlet.
Donc, notre pauvre espion essaye de engager comme référent
de ce qui est vietnamien, de la langue.
Oui, de la langue,
Il va écrire des dialogues et
des scènes à pleurer de rire. C'est une satire. C'est extraordinaire.
C'est ça qui est génial. C'est-à-dire qu'il va écrire des scènes en vietnamien qu'aucun Américain ne comprend
pas,
mais en leur faisant dire la propagande communiste.
Voilà. Le metteur en scène trouve ça génial, il ne comprend rien.
C'est à la fois un film historique, c'est à la fois un film sur l'intégration, sur le racisme, l'exclusion aussi, le rejet. Parce qu'au casting, on emploie des Chinois pour jouer des Vietnamiens en disant « bon, c'est des jaunes, on s'en fout, ça fera très bien le rôle ». C'est vraiment comme ça que c'est vécu.
Oui. C'est exactement.
C'est une violence inouïe.
C'est très violent. Et moi, j'ai eu la chance de faire cet épisode-là où il y a David Duchovny aussi, qui est un acteur complètement
parfait,
fou, qui se prend pour.
Toujours bourré d'ailleurs, lui, depuis Californication, il n'a pas dessoulé. Hein.
Très violent, mais rien
d'ailleurs. Il fait ça très très bien.
Mais il est
Non, mais il le fait bien.
Il est culte en tout cas.
Mais il est culte, quoi. Je ne sais plus ce que je voulais dire, mais enfin, c'était très sympathique d'être avec tous ces acteurs. Il y a un face-à-face des deux d'ailleurs qui est vachement bien dans l'épisode Duchovny et qui se connaissent bien. D'ailleurs, puisque Duchovny disait à Robert Downey Jr. « Tu m'as pris sur Chaplin, je débutais, je vous ai vu travailler, j'étais fasciné, ça m'a donné envie. » Donc c'était joli, parce qu'ils se suivent depuis des années quand même.
On va continuer à parler de cette série jusqu'à 12h30, mais d'abord voici Lisa Delmoitier. Alors vous n'auriez pas fait un film sur la guerre du Vietnam comme ça, Lisa?
Non, j'aurais pas fait ça, moi. Non, la série parle de guerre du Vietnam, du vécu des Vietnamiens, de l'impérialisme américain. Et moi, chaque fois que je me prépare à critiquer les États-Unis, je me chauffe. Puis je me rappelle que ma passion, c'est le stand-up. Bah, ma fille préférée, les Kardashians, et mon fléau favori, l'obésité. Moi, tu m'enlèves les Américains, mon monde s'écroule. Ouais, moi, mon fléau préféré, c'est l'obésité. En même temps, les autres fléaux, c'est la peste et une pluie de sauterelles. Donc vous comprendrez, si le jour de l'apocalypse, je préfère crever du fléau où on mange trop de donuts. C'est comme ça que je veux partir, moi. C'est incroyable, les donuts. Moi, j'adore ça. C'est tellement léger, t'as l'impression de mordre dans un nuage ou le cul d'un mannequin. Et tout ça, j'ai jamais testé.
Oui,
c'est DiCaprio qui m'a expliqué. Lui, il mord dans le cul d'un mannequin différent chaque année. C'est incroyable. Mais le donut, c'est incroyable le donut. C'est plus léger qu'un pet, mais c'est aussi le seul dessert qui a la forme de la bouée qu'il est en train de te former autour des terrains. C'est incroyable. 1000 calories en à peine deux bouchées. Franchement, un plaisir si court pour tant de conséquences. Manger un donut, c'est comme tomber enceinte d'un éjaculateur précoce. C'est quand même c'est cher payé quoi, pour si peu de plaisir. Mais donc, comment critiquer les États-Unis avec avoir un regard sur leur implication au Vietnam quand tu dépends d'eux comme moi? C'est comme quand je passe mon date à expliquer aux gars, je te préviens, je suis féministe. Hein, à balle patriarcat, je suis pour l'égalité, moi. Et au moment de l'addition, je fais semblant de chercher mon portefeuille. Non, c'est pas vrai, il est où? Putain, je crois que je l'ai oublié à l'époque où les femmes n'avaient pas de compte en banque. C'est pas parce que je profite des restes du patriarcat que je peux pas le critiquer. Et j'ai beau aimer l'humour et la junk food made in US, je me rends compte des dégâts de l'impérialisme américain. Ils répandent leurs idées partout, les Américains. Bon, depuis Trump et Biden, déjà, tous les retraités de mon quartier se sont réveillés. Ils veulent tous finir leur vie à Washington. En même temps, je comprends. 3 ascenseurs, 25 personnes en cuisine, la Maison Blanche, c'est juste un EHPAD où tu fais des discours. Hein. Et un autre indice de l'hégémonie culturelle américaine, c'est que tout ce que je connais de la guerre du Vietnam, je l'ai appris via leur cinéma. Ouais. Tout ce que je connais de la vie, d'ailleurs. Mmh. Hein. Ouais. Moi, j'ai appris la géopolitique grâce à Apocalypse Now, la justice avec le merveilleux 12 hommes en colère, et la sexualité avec le classique une fille qu'un joueur de rugby.
C'est
laisse des traces. Je vous le conseille, vraiment. Donc c'est ça la force de la série The Sympathizer. On a enfin le point de vue d'un Vietnamien, hein, pas que des Américains. Ça change d'Apocalypse Now. D'ailleurs, dans la série, Marine Deltain, vous jouez la femme d'un réalisateur qui rappelle un peu Coppola, hein, sur le tournage d'Apocalypse Now. Le mec est survolté, mais vous n'êtes pas impressionné, hein.
Vraiment, je suis la seule un peu normale.
Ouais, vraiment, vous avez un peu ce que les Américains appellent la nonchalance à la française, hein. Autrement connu sous le terme de mépris. Hein, faut se dire. Quand, si, il faut garder ça comme ça. Française, c'est parce qu'ils ne sont pas impressionnés. Hein, les gars, vous vous retrouvez donc à demander si le tournage est assez crédible à cet espion vietnamien. Quel métier, quand même, l'espionnage, hein. Un espion, c'est quelqu'un qui ne peut jamais rien révéler de personnel sur lui. C'est littéralement l'inverse de moi. Je ne pourrais jamais être espion, je suis incapable de pas trop en dire sur moi. Je vous jure, c'est un enfer au quotidien. Mais vraiment, moi je ne sais pas faire de small talk. À résultat, deux secondes après avoir rencontré quelqu'un dans le bus, je suis là... Ma plus grande peur dans la vie, c'est l'humiliation, mais paradoxalement, c'est ce qui m'excite le plus au lit. Ah, mais voilà déjà mon arrêt. Dis donc, ça passe vite quand on met tout le monde mal à l'aise. D'ailleurs, voilà déjà la fin de la chronique. Je vous laisse, hein, vu l'actualité, il semblerait que l'apocalypse soit proche, donc bon, oui. J'ai une boîte de donuts à dépenser.
Lisa Del Moitié.
Sa boîte de donuts, c'est la nouvelle scène. Tous les jeudis soirs.
Pour en revenir, donc, Marine Deltain, à cette série, c'est vrai que ça peut être vu comme une série d'espionnage historique. C'est vrai que l'histoire appartient à ceux qui la racontent. Ça a été le cas des Américains longtemps. Là,
c'est le cas de la France aussi. Hein.
C'est récupéré. Non. Ouais, c'est vrai. Ouais. Non, t'as raison.
Bah oui, le roman national.
Absolument. Ouais,
c'est celui qui l'écrit qui a raison. Hein.
Et là, ce sont les Asiatiques, parce qu'il est coréen, le réalisateur, et donc se retrouver avec ce regard-là sur le Vietnam, le vécu, et surtout la volonté, finalement, de retrouver ses racines après avoir étaient des réfugiés politiques ou des victimes, en tout cas, qui se retrouvent aux États-Unis avec la culture américaine. Et ils seront toujours marqués par par leur culture, évidemment, par le regard des Américains sur eux, le racisme. La guerre va continuer, elle est plus psychologique.
Oui.
C'est
ce que raconte cette série, ouais, tout à fait.
Et puis il y a aussi un petit côté comédie romantique, comédie peut-être le mot est un peu fort, mais enfin il y a des histoires d'amour, il y a des histoires de rencontres, il y a des histoires de trahison aussi, et puis un espion, un double espion, comment fait-il pour convaincre un camp qu'il est vraiment avec eux et pas avec les autres? Il doit aller beaucoup plus loin que ce qu'il avait prévu d'aller, et ça va l'hanter parce que les fantômes aussi sont très présents.
C'est vrai.
Il y a un côté un peu fantastique aussi.
Il y a un côté, ouais, fantastique. Mais il y a trois metteurs en scène sur cette série, donc c'est vrai qu'il y a trois un peu périodes dans le film. Hein. Il y a Park Chan-wook qui a une mise en scène extrêmement léchée, très très cinéma, et je crois qu'il faisait à peu près 40 prises par plan.
Waouh.
Et donc nous, on
mais
est arrivé...
Mais qui est la référence pour les autres réalisateurs, si
bah évidemment, parce que c'est un grand metteur en scène, il a son style, et voilà, et c'est très particulier. Et puis après, nous, on a eu Fernando Mireles, qui est aussi un metteur en scène que j'aime beaucoup, qui a fait La Cité de Dieu, qui est un de mes films préférés, qui est donc brésilien,
sont complètement à l'opposé, donc on était que dans l'improvisation. Donc ça, Robert Downey Jr., c'est la joie. Donc voilà, après, et Mark Mandan, enfin voilà, il y, a quand même aussi... D'accord. Après, il y a Park Chan-wook qui est showrunner, donc il tient un peu toute l'ensemble.
C'est ce que j'allais dire, parce qu'il y a quand même une, unité dans, dans la série, dans la réalisation, dans la lumière, dans les allers-retours, parce que ça fonctionne beaucoup avec des flashbacks. Alors le point de départ... Il est en prison, quand même, l'acteur c'est Hua Xuande.
Hua Xuande.
Il se retrouve en prison et on lui demande de raconter son histoire et de faire donc des confessions. Et là, il se met à écrire ce qui pourrait être finalement le scénario de la série de cet épisode.
C'est le récit dans le récit, quoi. En permanence.
Mais nous aussi, c'était bizarre de jouer un film dans le film, en fait. Il y a un jour, je suis arrivée sur une scène... je ne dévoile pas Duchovny, on filme Duchovny, hein, et après je ne comprenais pas, parce que je disais, Robert, mais il y a une caméra là, non mais ça c'est la fausse. Ouais, il y avait des caméras partout, je ne savais plus qui tournait quoi, enfin, c'était assez surréaliste. Quoi. C'est très
la manière de travailler des Américains, on peut en parler quelques secondes, vous avez l'expérience des tournages en France, que ce soit de séries ou de films, est-ce que vraiment la légende qui dit les Américains, c'est pas pareil, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas pareil parce qu'ils prennent plus de temps, est-ce que c'est pas pareil parce qu'il y a plus de distance entre les acteurs et le réalisateur, il faut passer par trois personnes pour avoir une indication. Comment ça se passe réellement?
Ouais, c'est vrai, j'avais fait Vatel aussi, j'avais fait Coco Chanel, j'ai fait plusieurs films. Mais c'est vrai que sur les gros films comme ça, comme Vatel ou là, Sympathizer, c'est vrai que les Américains, ce qu'ils aiment, c'est qu'on arrive, l'acteur arrive prêt. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de...
À l'heure, déjà.
Déjà, à l'heure.
À l'heure, mais nous aussi, c'est en France. Hein. Alors, ça...
C'est pour ça qu'on ne sera pas acteur.
Il faut qu'on soit à l'heure. Ça s'appelle le respect, c'est tout.
Non, mais sur ces gros films, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup le temps de discuter, de chercher, etc. Les acteurs sont prêts. D'ailleurs, souvent, il y a des coachs aussi qui peuvent préparer en amont. Donc, il n'y a pas le temps sur le plateau de beaucoup...
Bah alors donc tout à l'heure vous disiez il y a un peu d'improvisation.
Non, là
alors...
sur Fernando, ça c'est sûr qu'il y avait beaucoup d'improvisation. Mais enfin moi j'ai pas eu par exemple sur le tournage, je n'ai jamais parlé à Fernando Mireles avant, à peine le jour J. C'est-à-dire qu'après moteur action, on ne pas, c'est improvisé, mais on n'a pas parlé du rôle, on n'a pas défini. C'est
d'accord.
Vraiment...
Ah oui.
Avant donc, vous l'avez fait avec lui ou pas du tout?
Pas du tout.
Ah, donc la seule personne qui m'a appelé
avant
de...
c'est la coordinatrice d'intimité qui elle était très impliquée dans
pour la scène intime avec Robert Downey Jr.
Mais comment savoir si vous travaillez dans la bonne direction, si vous arrivez le jour J sur le plateau avec ce réalisateur-là, de cette partie-là
avec
de la série,
bonne intention, avec
parce que vous avez travaillé et qu'en fait ça lui va pas du tout?
Non, mais parce que là du coup les essais que j'avais faits, qui étaient quand même beaucoup de scènes en essais, c'est ce que j'avais proposé qui leur allait, donc c'est aussi pour ça que
on
ne prenne pas quelqu'un pour
le faire travailler sur quelque chose,
en tout cas de mon expérience. Après il y a un truc très agréable chez les Américains, c'est qu'ils sont très axés sur la santé mentale, ils sont très respectueux de la santé mentale, vraiment ils sont plus en avant que nous, donc sur un tournage il n'y a pas le début de harcèlement, alors physique plus du tout, hein. En plus depuis MeToo c'est très évacué, mais aussi moral, c'est-à-dire que personne ne parle mal à personne, c'est impossible quoi, c'est tout de suite très cadré, voilà. Et les Américains sont forts sur l'oralité, donc il y a un début de conflit, quelque chose, c'est tout de suite exprimé, on en parle,
on analyse,
ça reste
beaucoup.
Pas comme d'accord. Ça des semaines et ça, c'est très respectueux,
et donc
c'est assez agréable.
Cette coordonnatrice, justement, elle vous appelle en vous disant il y a une scène intime avec Robert Downey Jr. Elle vous pose carrément la question de qu'est-ce que vous acceptez, qu'est-ce que vous n'acceptez
pas,
jusqu'où
faut-il
aller ou pas.
Non, elle me dit est-ce que ça vous pose problème, est-ce qu'il y a des endroits, parce qu'il y a aussi des danses, des choses qu'on faisait, tout ça, est-ce que ça vous pose problème? Non. Et après, le jour
donc
du
c'est
du
Robert
tournage,
Downey Jr. Enfin, c'est ça.
Oui, c'est Robert Downey Jr. Tout va bien. Et puis le jour du tournage, elle est venue encore, on attendait, on était un peu dans le froid tous les deux. Elle dit alors est-ce que tout va bien? Et donc là, Robert, très drôle, a dit écoutez, madame, je crois que Marine est très heureuse dans son mariage. Moi aussi, on a à peu près tous les deux 50 ans. Oh on va y arriver. Et elle a fait. D'accord.
Est-ce que c'est vrai que vous avez fait la vanne en disant à la coordinatrice est-ce que j'ai. Est-ce,
ah
que
oui,
avez, est-ce que vous avez besoin d'être rassurée?
C'est plutôt mon mari qu'il faut rassurer.
Voilà. J'adore cette vanne.
C'est vraiment génial.
Elle n'a pas compris.
Et Florian va bien ?
Oui, il va bien.
Il a bien vécu, ok, c'est essentiel. Cette série est totalement dingue. Alors, c'est distillé. Chaque semaine, il y a un nouvel épisode, c'est ça ? Le vôtre est arrivé ce dimanche sur HBO.
Et HBO, et ce soir, France. Il passe ce soir. On a un jour d'écart.
Oui, il y a un jour d'écart.
C'est toujours ça.
Warner ce soir.
Ok, super. En tout cas, on a eu la chance et merci de nous avoir permis de voir les sept épisodes à la suite les uns des autres parce que c'est vraiment impressionnant la manière dont ça joue. Il y a la traîtrise, il y a évidemment l'intégration, tous ces réfugiés qui ont fui la guerre du Vietnam et qui se retrouvent aux États-Unis propulsés dans dans une société qui ne veut vraiment pas d'eux, qui leur envoie d'ailleurs l'image plutôt d'une défaite qu'autre chose, et eux-mêmes comprennent assez rapidement les rouages de la société. Ont-ils ou pas envie de retrouver leurs racines? Toutes ces questions se posent et se posent à tous les réfugiés finalement du monde et à tous les immigrés du monde, à savoir est-ce que l'on est forcément heureux vers la terre promise ou est-ce que d'instinct il y a toujours l'appel de la terre natale. Peut-être ce genre d'appel que vous êtes en train de vivre, vous, avec la France. Ça fait combien de temps que vous êtes aux États-Unis maintenant?
Ça fait un an et demi. On va rentrer là, mais ça fera 2 ans.
Et la France vous manque ou pas?
Énormément. Je ne m'y attendais pas à ce point-là. Je suis parisienne, je suis née là, donc je suis peut-être un peu pas blasée, mais je veux dire, le fait d'être loin, cette ville m'a manqué tellement, et la France, ouais. Et surtout, on se rend compte en vivant ailleurs à quel point c'est l'Eldorado, quoi, franchement. Mais ça, il faut aller loin pour se rendre compte. C'est au niveau de la santé, où là-bas, les gens se ruinent pour se soigner.
Soins, oui, voilà.
Les soins ne sont pas gratuits, coûtent très, très cher. Mais vraiment, on l'éprouve tous les jours. Les écoles aussi sont très chères. Et puis aussi, le cinéma est en train de mourir aux États-Unis. C'est les plateformes qui ont tout pris. En Angleterre aussi. Donc nous, on a un Eldorado artistique. Enfin, je veux dire, entre la production de cinéma...
L'exception culturelle française.
L'exception culturelle extraordinaire. Quand je suis à Los Angeles, il n'y a pas de théâtre. Donc là, l'autre soir, je vais au théâtre, il y avait 200 spectacles à voir ce soir là dans Paris. C'est juste on est le seul pays au monde, plus que même Londres, à voir ça. Donc que ça soit la télé qui est d'un grand niveau cinéma-théâtre, c'est la danse, les musées, enfin c'est extraordinaire. L'art de vivre, évidemment, mais ça on le sait. Mais voilà, et donc ça, et les gens, parce que Los Angeles c'est une ville fantôme. C'est une ville de la nature, donc la nature est sublime.
C'est une ville d'autoroute. Enfin, moi, j'ai jamais foutu les pieds, mais il paraît qu'il n'y a que des grandes routes.
C'est une ville très étendue, donc il n'y a pas de gens dans les rues.
Une voiture.
C'est une ville très cinématographique, assez fantomatique et belle. Hein, quand on aime le cinéma, c'est plein de références. Mais moi, j'ai besoin de voir des gens.
Les Parisiens vous ont manqué, c'est ce que vous
beaucoup.
Êtes en train de
dire. Les terrasses. Je les trouve même très sympathiques, moi.
Vous êtes partie d'antan.
C'est ça ce qui nous manque.
Et même l'état
politique.
Il faut aller ailleurs. Et même l'état politique du pays, les tensions de plus en plus forte entre les communautés, parce que c'est aussi ça, j'imagine, de revenir et c'est de se rendre compte aussi, même si vous ne l'avez pas perdu de vue, j'imagine, à distance, mais quand même.
Oui, mais
en 2 ans, en peu de temps, ça.
Oui, ça s'est dégradé, mais c'est mondial. Et puis, alors, aux États-Unis, il y a un autre truc très bizarre, par contre, ça, c'est très angoissant, c'est que, par exemple, la Californie, c'est le pays, c'est, crois-je, le plus cool, l'état le plus cool des États-Unis, donc tout le monde est très yogi, etc. Et puis, tout d'un coup, on ouvre les infos, il y a un mec qui s'est fait tuer sur le parking où on était 2 heures avant.
Ouais.
Ce problème des armes à feu et ces tueries constantes dans la ville sont assez violentes.
Article 2 de leur amendement, c'est-à-dire, ou amendement numéro 2, je ne sais pas comment on dit.
Oui, enfin, on n'a pas besoin d'être aux États-Unis.
Article 2 de la Constitution.
Aux États-Unis,
c'est de se défendre. C'est ça.
Je ne l'ai pas dit, pardon, mais c'est adapté d'un roman éponyme, The Sympathizer, signé par Vincent Nguyen, qui a reçu le prix Pulitzer, thriller d'espionnage, avec une satire quand même sur le choc culturel entre les Vietnamiens d'un côté et les Américains de l'autre, et cet espion mi-français, mi-vietnamien, mi-encore enfant, mi-adulte.
Oui, c'est vrai qu'il a ça, il a un physique d'enfant, une voix très grave. Il avait une scène émouvante avec moi, je raconte pas tout, mais c'est vrai que dans le film, il me donne à un moment quelque chose, une information qui est la seule fois où je parle vraiment, j'ai quelque chose.
Qui est la clé, on peut le dire, autour de sa maman, l'histoire de sa maman.
Voilà.
Mais déjà, vous lui renvoyez l'image du village dans lequel il a grandi, puisque vous êtes la chef décoratrice qui a reconstitué ce village et qui demande sa caution, finalement, de dire est-ce que j'ai bien fait mon boulot. Et là, il est totalement bouleversé jusqu'au cimetière qui a été également reconstitué et qui sera une autre scène que d'ailleurs dans la série.
Il y a une petite référence au parrain aussi.
Marine Delterme, notre invitée jusqu'à 12h30 avec The Sympathizer qui est sur HBO. La série de Park Chan-wook. Mais d'abord, voici Julien Santini.
Merci beaucoup.
Julien, cinquième.
Oui, super. C'est la cinquième. J'arrête de le dire. Je suis chez moi.
J'ai cru que tu ne reviendrais pas.
C'est très gentil. Bon, mais bonjour.
On m'avait juré qu'il ne reviendrait pas.
C'est quoi, j'ai tout fait pour.
Je sais, vu que c'est la cinquième, maintenant respectez-moi. Alors, bienvenue dans la chronique de Julien Santini. La chronique de Julien Santini. Ravi de tous vous revoir, Nagui. Et vous, Leïla, encore plus. Vous, Leïla, parce que je sais que la semaine dernière, vous deviez être là et vous avez eu un tout petit souci de santé au dernier moment.
Ouais.
Donc voilà, est-ce que ça va mieux?
Ça va très bien.
Bon, bah super, je suis content de vous revoir. Et vas-y que j'ai un petit peu mal à l'intestin. On sait tous très bien qu'il n'y avait pas grand-chose. Pardon. dérapage. Leïla, c'est un dérapage. Et le pire, c'est le seul moment de ce texte qui n'était pas écrit.
Ben
donc,
voilà.
Je reviens dans ce qui est écrit. Ravi également de retrouver mes partenaires d'un matin. J'avais marqué en plus Lisa et Tanguy. Mais Tanguy fait un peu trop ce qu'il veut. Il sera sanctionné à la prochaine. C'est vrai. Alors, je vais dire Tanguy, Daniel à la place de Tanguy. Lisa et Daniel, ce ne sont pas les rires les plus sonores du paysage radiophonique. On ne peut pas dire que la manifestation d'enthousiasme soit ostentatoire. Si la brigade du kiff nous interpelle, il n'y aura pas grand monde en garde à vue. La garde à vue, la transition me semble parfaite.
Ouais.
Je vous explique la semaine dernière. Tenez-vous bien. Je tourne une vidéo sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, avec deux potes, on joue des braqueurs rentrant dans un théâtre. Je ne peux pas dire lequel car ce n'est pas officiel. Nous voilà au théâtre des Mathurins, sur le perron, portant des cagoules.
Ah ouais.
Soit dit en passant, est-ce qu'elle allait mieux à certains que d'autres? La réponse est oui. Pour des raisons évidentes de sécurité, je n'en dirai pas plus, on s'est compris. Je trouve que je la porte mieux que les autres? L'expérience, sans doute. Je n'ai jamais fait de braquage, mais j'ai grandi en Corse. Est-ce que mon père a été de près ou de loin impliqué dans l'attentat des impôts vers la préfecture en 1989? Le principal intéressé dit que non. Le juge, lui, dit que dans le procès verbal, il aurait été vu en repérage la veille et que son téléphone avait borné dans les 2 km. Mais c'était en 1989. Revenons donc à la semaine dernière. C'est faux. Me voilà avec deux potes sur le perron du théâtre, dans la rue, avec une cagoule chacun. Et c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup préparé le tournage, donc j'ai peut-être omis qu'il y avait une banque à côté. Et en rigolant d'ailleurs à mes copains, je leur disais, vous imaginez, s'il y a quelqu'un qui marche dans la rue et nous voit à ce moment-là, personne pourrait penser que c'est un vrai braquage. Sauf que c'est arrivé. Une personne est rentrée dans le théâtre et a dit, pour information, je viens d'appeler la police. Donc la morale de cette histoire, c'est que quand on n'a pas les moyens de faire une vidéo, eh bien on fait des facecam et on ne tente pas de faire une reproduction low cost de hit. Le braquage, la police, Alice Nevers. La transition est parfaite.
Gênante.
Déplaise aux gens, aux médisants qui crachent leur venin à coups de « Oui, mais Santini, c'est quand même faiblard en transition. Et Santini, c'est peut-être une frappe physiquement, mais enfin, sur les transitions, c'est pas une frappe. » Alors là, bon, pour le coup, le texte était écrit. Marine Delterme, je suis content de vous voir en vrai. Moi qui, à chaque fois, vous regardais derrière.
Un
écran
c'est
télévision.
C'est
je vous ai toujours trouvé une classe folle.
Je suis désolée.
Je pensais
pas tout le monde ici.
Moi, je m'excuse pas parce que vraiment, je l'assume totalement. Je pensais à force vous connaître. Cependant, il y a plein de choses que j'ai apprises de vous récemment. Ce mariage avec Florian Zeller. Alors, je n'ai rien contre cette union, mais je vous dis honnêtement, quand j'en ai parlé récemment à mon meilleur ami, il m'a répondu. Vous savez, Monsieur Santini, le déni ne sert à rien. Sortez-en, faites-vous confiance. J'ai absolument rien compris à ce qu'il m'a dit. Également cet article sur lequel je tombe et me suis fait mal. Cette interview où vous dites Robert Downey Jr. a changé ma vie. Alors tranquille, ça cite Robert Downey Jr. au calme. Ouais, y a pas de. Bon, je me suis dit, c'est totalement. Je sens que c'est ma dernière chronique. Je me suis dit, c'est totalement mérité de jouer à ses côtés. Mais c'est vrai que j'attendais. Je suis honnête, pardon. Marine, et j'ai beaucoup de respect pour vous, mais beaucoup plus une couverture de vous sur Téléstar avec vous en disant ma nouvelle vie aux côtés de Laurent Romeshko. Ce n'est pas méchant, je sens qu'il y a méprise, c'est juste qu'il y a très peu d'acteurs français qui citent quand même Robert Downey Jr. Sinon, humblement, Marine, moi je m'inscris dans vos pas. Sachez que la semaine dernière, j'ai fait mes premiers pas dans l'art du crime.
Oula.
Oui, c'est super. Alors, cependant, il faut que l'enthousiasme des séries criminelles chez les Français cesse. Ça devient quand même un peu morbide, cette histoire. Aujourd'hui, vous allumez la télé, il y a que des séries policières.
Ouais.
Meurtre à Nîmes, meurtre à Collioure. Alors, je pense qu'on n'aura jamais meurtre à Bastia. Pour le coup, pour y être né, avoir grandi. Oui, c'est un doc. C'est que si la vanne est plus drôle que ce qui va venir, il faut arrêter. Mais je vais quand même la refaire.
Vas-y.
Sachez que mon mépris, désormais, il est sur vous, Naïf. Tout le monde saura à Bastia qui est l'assassin et personne ne dira rien. Il y aura donc aucun suspense. Pourquoi ça ne marche pas? À cause de vous, Nagui. J'embrasse la Corse, car malgré tout, après cette blague, je vais perdre mon passeport. On rit, enfin, presque, hein, Lisa, j'allais dire Tanguy, Daniel, mais moi, il faut que je vous laisse, même vous, Marine, c'est dur, mais moi, je passe un casting cet après-midi pour Meurtre dans le Périgord. Merci à tous.
Merci, Julien Santini. Santé. Revenons à cette série HBO avec...
C'est vrai.
Ça, rien que ça, déjà. On
sait que c'est Sex
and the Game of Thrones qui commence.
Game of Thrones.
Ouais. Ouais. Ah, moi, j'avais Californication, tu vois.
Ah ouais, bah, tu vois. On est plus récent.
Ça réforme. Okay, voilà. Et 24.
C'est vrai. Une bande originale de dingue. Il y a, par exemple, ce titre ici qui vient. Avec ses grands paysages façon... Paris, Texas, ou... Ah, comment s'appelle ce film avec... Thelma et Louise. Non, mais le côté... exactement, Grand Canyon, cabriolet, voiture qui roule, voilà, histoire d'amour ou pas. Tout ça fait partie de cette série. On va en parler notamment du point de vue vietnamien par rapport à cette guerre avec Antoine Lê, qui est historien, la guerre du Vietnam, un traumatisme qui est toujours présent. Et pour preuve qu'il y a je pense qu'il va de pair avec le succès et du livre de Viet Thanh Nguyen, comme avec The Sympathizer, c'est-à-dire une nécessité d'en faire, en tout cas un devoir de mémoire, mais aussi d'en faire un spectacle, une vision totalement différente. C'est une réussite qu'on soit, parce que nous on n'est pas concernés directement, pas autant que les Américains évidemment, ou les Coréens ou les Vietnamiens sur cette guerre du Vietnam, mais c'est une réussite de cinéma, de série, de suspense, d'effets spéciaux, un peu de fantastique aussi de temps en temps. Il n'y a pas que des fantômes normalement constitués, il y a aussi quelques scènes qui... Bon, on se dit que là, il y a des visages qui ont subi, on va dire, quelques violences. Mmh. Voilà, il y a des scènes de torture aussi, pour ne pas oublier la vérité et l'horreur de la guerre. On en parle tout à l'heure. D'abord, retour à la musique, celle de Marine Delterme. Vous écoutiez en 88 des Dire Straits. Qu'elle évoque cette musique de Dire Straits pour vous? Vous l'entendez? Voilà. Vous retrouvez où? Vous êtes replongé dans quel décor?
Replongé dans le décor du bac, lycée Chaptal. Quand je passais mon bac, j'écoutais beaucoup Dire Straits.
Du côté des Batignolles, là, c'est ça?
Ouais, boulevard des Batignolles. J'habitais là-bas. Quoi. Et voilà, donc toute la jeunesse, tous les débuts de la vie, avant de pouvoir partir, s'envoler et quitter la France.
Parce que vous vous inscrivez à la fac de droit d'Assas, et en fait vous êtes remarqué très vite par un agent japonais, je crois.
Je suis remarquée très vite. Non, alors la vraie histoire, c'est que moi, j'habite à côté, il y a une agence, Karine Model, qui est juste à côté de chez moi. Je rêve de mode depuis que je suis adolescent. Et donc, je vais faire des petits photomatons place des Ternes, et puis j'arrive avec mes petites photos, et puis ils me disent, bon, on va faire un test, puis vous êtes très bien, et puis on vous prend. Et puis en fait, voilà, j'ai un petit souci avec Jean-Luc Brunel, qui depuis s'est pendu dans sa cellule, puisqu'il a été attaqué dans l'histoire Einstein.
Mais ce souci était un souci d'agression, justement?
Non, oui, enfin, en tout cas, voilà, j'étais à une soirée, on m'a dit d'aller à une soirée chez lui, puis il y avait pas beaucoup de monde, et il m'a dit de me mettre en maillot de bain et de faire des photos. J'ai dit non. Je le sentais pas du tout, donc je suis repartie. Donc il n'y a rien eu vraiment, mais je me suis dit, c'est bizarre. Quoi.
Et en fait, il voulait vous prostituer pour des clients?
Non, pas du tout, c'était juste faire des photos, peut-être des photos en maillot de bain chez lui assez tard.
Dans un premier temps, ouais, c'est
voilà.
Ça.
Voilà. Et donc je suis rentrée, et puis j'ai appelé lundi en disant, je ne veux plus, c'est pas grave, je retourne à Assas, tout va bien. Si c'est ça, ça me plaît pas. Voilà, bah, moi, et puis 6 mois après, je faisais du stop et un japonais m'a dit, mais pourquoi tu fais pas mannequin? Ah non, c'est pas, ça me plaît pas. Il m'a dit, non, je vais te mettre chez l'agence. Oui, c'est deux femmes, c'est des mamans, c'est tout va bien, ça va bien, elles sont bien, etc. Et tu vas être protégée. Et donc voilà. Et après, donc je suis repartie vers le mannequinat en deuxième phase.
C'est ça. Et vous dites que ce qui vous plaisait là-dedans, c'était les voyages et aussi l'opiniâtreté que ça a développé chez vous. Ça veut dire quoi, ça?
Bah, l'opiniâtreté, je sais pas, mais en tout cas, ça m'a ouvert une fenêtre sur le monde, parce que moi, mes parents ne voyageaient pas du tout. Donc, moi, mon vrai, au départ, c'était aussi pour pouvoir voir le monde, quoi. Donc, c'est vrai que ça m'a permis de vivre à Tokyo, à New York, d'aller partout. À un moment, j'allais tous les jours dans plein de villes. Je partais le matin, je revenais le soir. territoires d'Europe et de travailler avec plein de gens différents. Ouais, c'est génial.
Et puis quel nom ? Peter Lindbergh, Dominique Iserman, Richard Avedon. Enfin, c'est
les références. Plein de
les meilleurs photographes du monde.
Ouais, j'ai de la chance, vraiment. Ouais.
Être devant un objectif d'appareil photo ou celui d'une caméra, c'est totalement deux métiers totalement différents, ou c'est quand même deux objectifs, l'un filme, l'autre prend des photos, mais est-ce que le rapport est le même à l'objectif ?
Non, c'est complètement opposé. C'est pour ça
opposé.
C'est pour ça que depuis quand j'étais mannequin et je voulais être comédienne, c'était compliqué parce qu'on vous demande deux choses très opposées. Et c'est Valéria Bruni qui m'a emmenée comme ça, qui m'a dit tu veux être comédienne, allez vas-y je t'emmène dans les cours, il va falloir casser. Parce qu'une mannequin, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pose pour un photographe. Quand c'est un grand photographe, c'est plus poétique, c'est plus intéressant, mais on essaye d'être belle, on essaie d'être parfaite, on essaie de donner une image très contrôlée. Et une actrice, elle ne fait que lâcher prise. Donc voilà, c'est tout ce travail de casser un peu cette construction narcissique pour arriver vers soi-même. Hein. C'est très opposé.
Un objectif qu'on regarde et l'autre que l'on...
On ne regarde jamais. Très rarement.
Et l'autre qui nous observe.
Ouais. Voilà, c'est ça. Comment on grandit avec la beauté ? Comment on évolue dans le temps avec la beauté ?
Tu le sais bien.
Si on a le temps, je peux vous expliquer.
Moi, j'ai pas été mannequin. Enfin, voilà, c'est pas non plus mon... Parce que c'est ça, quand on a été... vous le dites, devant l'objectif d'un photographe, que vous devez être belle, tout maîtriser, c'est aussi un...
C'est un carcan.
Ouais.
On peut toujours être parfaite, être désirable, être...
Pas droit au moindre petit bouton, ni le petit jetard.
Le jetard, à la limite, c'est passager, mais l'âge, c'est quelque chose qui s'installe, et à un moment, c'est quelque chose avec lequel il faut vivre.
Ah, l'âge. Alors là, vous avez très... Ah oui, on va vite là. Waouh. Alors,
en fait, l'imperfection, je pense que ça se
maquille.
Ça se cache.
Un petit peu de fond de teint.
Ben oui, ça va. On peut bricoler. On bricole.
Hop, hop, hop.
Papier de verre.
Justement, le fait d'aller vers d'être comédienne, quand même, ça casse un peu cette obsession de la perfection. Mais en même temps, quand on est mannequin, ce qui est difficile, c'est un métier très dur. On est confronté à tellement de jolies filles face à soi. C'est-à-dire qu'on est entouré de filles plus belles que soi. Donc ça apporte un peu d'humilité, beaucoup même, mais voilà, après l'âge, c'est difficile pour tout le monde, de toute façon, c'est un challenge, il faut être courageux.
En 2002, vous écoutiez, absolument, Marine Delterme, écoutez David Bowie. Lui aussi, il travaille d'image incroyable.
Bowie,
un artiste,
tellement extraordinaire, facettes. Et puis j'adore ça, c'est quatre, c'était dans la bande...
Ouais.
Ouais, un film merveilleux, artiste, polymorphe, poétique, incroyable, quoi. Merveilleux.
Et 2002, c'est Alice Nevers, la juge est une femme.
Ah, c'est vous.
C'est vous, ce sont les débuts. Comment ce rôle vous arrive ?
Enfin, les débuts, j'ai quand même fait beaucoup de longs métrages.
Non, mais le début d'Alice.
Ah, de la série d'Alice.
Ah oui, pas vos débuts d'actrice.
Ce rôle, on m'a proposé de faire un casting, pour remplacer quelqu'un. Et au début, je pensais faire comme ça une ou deux saisons tranquillement. Et puis finalement, ça a duré quasi 18 ans.
Qu'est-ce qui vous a plu dans le personnage d'Alice Nevers ?
J'avais fait un peu de droit à Stas, ça me faisait marrer de me retrouver dans cette position
enfin.
Un peu. Voilà. D'ailleurs, c'est drôle, cette série, elle a toujours été quand j'ai accouché de mon deuxième fils. Il voulait que je retourne au travail très vite, donc avec l'idée d'être enceinte. Donc j'étais enceinte pour de vrai, puis j'ai enchaîné avec Alice Nevers avec un faux ventre pendant un an. Donc c'est très drôle. Il y a toujours une sorte de comme
ça. Elle collait beaucoup à votre vie. D'avoir joué au cinéma avec des Gérard Houry et autres, de passer par une série aussi longtemps, est-ce qu'on se pose la question du choix de carrière en disant est-ce que je me crame pas avec le cinéma en étant héroïne de série télé avec des dizaines de millions de spectateurs ?
C'est sûr que je suis tombée dans une mauvaise période parce qu'aujourd'hui ça a bougé quand même. Ouais. Aujourd'hui on peut faire même une série. Sur France Télé, TF1, on peut tout bouger. À l'époque, on était quelque part. Et c'est vrai que ça a fermé les portes du cinéma. J'ai fait 2-3 longs métrages pendant ces 18 ans, mais pas autant. Mais là, c'est vrai que c'est rigolo d'aller à l'autre bout du monde et puis de rebattre les cartes et puis de se réinventer et puis de sortir des étiquettes. Je déteste les étiquettes. Je trouve ce qu'il y a de pire et de plus réducteur. Voilà. L'inverse de la liberté.
On est au pays du fromage, on aime bien les étiquettes pour bien marquer d'où ça vient, comment ça s'appelle et comment c'est fait. En 2016, vous écoutiez Harry Styles. Pète de scène, je sais pas si vous avez déjà vu Harry Styles sur scène, mais c'est un vrai show, c'est un vrai showman, c'est pas l'américaine, tout est lyophilisé, préparé, cadré, Il est très dans, dans l'impro, il est plus anglais, j'allais dire.
Mais
dans
il n'est pas anglais ?
Il est Ah, il est anglais ? Ah, pardon, je croyais que tu étais un saint.
Pardon, hein.
Non, non, bien.
Il est anglais, c'est.
Ah, bah, il est très anglais sur scène.
C'est fou.
Il mériterait, hein.
Non, mais il y a un tel succès mondial, j'étais
persuadé qu'il était. Mais plus aux États-Unis qu'ici, je crois. Oui, là-bas, oui. C'est une superstar. T'allumes la radio, t'as ça tout le temps.
Eh ouais, One Direction, ouais, t'as raison.
Voilà.
Que se passe-t-il en 2016 pour Marine Delterme ?
Eh bien, il y a le mec de la tombe d'à côté en 2016. c'est un c'est une pièce
changement
de théâtre
d'ambiance.
Oui, c'est ça, c'est une pièce de théâtre que
c'est non, c'est un best-seller, hein.
C'est un best-seller adapté.
Ouais, qu'on a adapté avec mon mari et David Twenkinos pour
Florian Zeller, je redis le nom pour que Julien
pour l'énerver soit énervé un peu. Ouais. Non non, et donc on a fait ça, ouais, c'est mon paysan, c'est génial cette histoire, c'est mignon, c'est une femme qui est veuve, qui a perdu son mari assez jeune et qui va parler à la tombe de son mari tous les jours et à côté, il y a un paysan qui va sur la tombe de sa mère et ça la dérange. Donc c'est assez drôle, le début est très drôle, ils s'engueulent sur à quelle heure on va voir la tombe de l'un et de l'autre parce qu'on veut son intimité.
On va reparler de The Sympathizer, cette série donc sur HBO, Pass Warner.
Bientôt HBO vraiment pour de vrai, ouais. Dans pas longtemps, ouais, en France. Enfin.
Mais je crois qu'en passant par Amazon Prime.
Là c'est en ce moment, oui c'est ça.
Warner,
Amazon Prime, on n'achète pas Warner.
On s'en sort plus hein, avec toutes ces plateformes.
Très très doué.
Mais il faut taper, tu tapes sur internet où trouver. Sympathizer et
vous trouvez Marine.
Voilà, c'est ça. Cherchez Marine.
Delterme.
Après, où est. Oui, c'est ça, parce que toi, ouais, d'autres.
Pas te donner la bonne direction.
Antoine Lay nous a rejoint. Bonjour, monsieur. Merci d'être à ce micro. Vous êtes doctorant au Centre d'Asie du Sud-Est. Vous allez soutenir une thèse, c'est ça,
oui, c'est ça.
Sur la guerre du Vietnam dans un mois. Vous avez pu travailler dans les archives vietnamiennes.
Déjà, c'est sympa qu'il vienne, parce que normalement, il est en train de bosser dur. Et là,
là, c'est fini. Là. J'ai déposé, j'attends la soutenance. Ça
très bien. J'ai l'impression qu'il ne fout pas grand-chose.
Avis au jury.
La guerre du Vietnam, dans le début de la série, d'ailleurs, il est dit que les Américains appellent ça la guerre du Vietnam et les Vietnamiens appellent ça la guerre américaine.
Alors, la formulation exacte en vietnamien, c'est la résistance nationale, enfin la résistance pour le salut national contre les envahisseurs américains. Mmh. Si on lit les manuels de scolaires, par exemple, au Vietnam, c'est cette expression-là.
Parce qu'il y avait un autre envahisseur qui était les Français.
Les Français, c'est ça. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour les Vietnamiens, cette guerre-là, elle n'est que la deuxième dans une phase qui est beaucoup plus longue, qui commence en 45 en fait avec ce que les Vietnamiens appellent la Révolution d'août. Donc il y a le moment où le président Ho Chi Minh déclare l'indépendance de la République démocratique du Vietnam, et elle se finit pour eux en 75, le 30 avril, donc très peu, enfin voilà, on va bientôt fêter le 50e anniversaire d'ailleurs, et avec la prise de Saigon par l'armée majoritairement composée de militaires venus du Nord-Vietnam.
Voilà. Le Nord-Vietnam considéré comme un pays communiste au sens étymologique du terme, au sens soviétique du terme, ou c'est une autre forme de communisme, une autre forme de politique ?
Alors ça, c'est une grande question pour beaucoup d'historiens. Moi, de ce que j'ai pu voir, en tout cas dans les archives, c'est que on voit surtout quand même un discours très axé sur l'angle de la libération nationale, sur l'angle de la réunification du pays. Peut-être juste pour aller très rapidement, le pays a été divisé en 1954 entre un nord qui a été donné à la République démocratique du Vietnam, donc un régime plutôt pro-communiste, et un sud qui était la République du Vietnam, qui était lui plutôt aligné sur les intérêts américains. Et en fait, toute la guerre va commencer d'abord par une insurrection de libération nationale dans le sud, qui va être soutenue par le nord, et qui petit à petit, ça dure 20 ans quand même, hein, on oublie que cette guerre a été si longue, mais en fait ça dure vraiment 20 ans. Donc
ça commence par le sud, ou du moins insurrection des Vietnamiens du sud,
oui,
qui veulent réunifier finalement tout le pays.
C'est ça. En fait,
contre les intérêts américains.
C'est ça. Et le si on peut dire, c'est aussi que le...
Parce que, pardon, les Américains se comportaient comme des colons et traitaient les Vietnamiens comme des esclaves ?
Je pense que c'est très compliqué. Hein. Enfin, comme dans toutes ces situations-là, on ne peut pas être univoque sur la présence américaine. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de travaux qui ont montré aussi les différences qu'il y a. On n'a pas le même rapport au pays quand on est un soldat qui va se battre dans la jungle que quand on est un officier, par exemple, qui va rester sur sa base et qui va avoir très peu de contact avec la population locale. Dans tous les cas, la présence américaine, elle est graduelle. de 54 jusqu'à 65, c'est majoritairement des conseillers militaires. Donc, c'est-à-dire que ce sont des forces spéciales, des officiers souvent, qui sont envoyés pour former les unités de l'armée de la République du Vietnam, donc cette armée anticommuniste, qui mène une guerre contre-insurrectionnelle dans le Sud pour écraser cette insurrection dont je vous parlais. Et c'est qu'en 65 qu'on a vraiment des troupes, officiellement, des troupes de combat américaines qui débarquent et qui vont atteindre plus de 500 000 hommes en 1969.
Avec énormément de morts de part et d'autre.
Alors, c'est ça qui est assez difficile à établir, c'est que sur les estimations de la guerre totale, parce que c'est une guerre qui s'est aussi étendue au Cambodge et au Laos, qu'il ne faut pas oublier, on est entre 1,5 million et 4 millions de morts, si on compte tout large, c'est-à-dire les civils, les militaires, et puis aussi les 56 000 morts américains, je crois, plus les dizaines de milliers de Coréens.
Ouais, donc un véritable traumatisme, quel que soit la facette, quel que soit le côté où on se place.
Oui, bien sûr.
Forcément traumatisant pour tous. Et puis c'est une guerre aussi où, comme souvent dans toutes les guerres, mais là on a la torture, on a presque des armes chimiques qui sont...
On a complètement des armes chimiques. Enfin, il y a l'agent Orange qui a encore fait des ravages encore aujourd'hui. On a encore des centres, quand on va au Vietnam, il y a des endroits où on voit encore les malades de l'agent Orange et c'est des séquelles qui... Enfin, c'est basé sur la dioxine, donc ça se dégrade très peu. Et encore pour des générations, ça va encore avoir des effets dans le pays.
Le pays au Vietnam est encore marqué, même 50 ans après, évidemment, mais c'est une cicatrice qui ne part pas.
Alors, moi, ce que j'ai trouvé très intéressant à remarquer aussi, c'est qu'on est quand même dans un pays très jeune. On est un pays qui compte presque 100 millions d'habitants aujourd'hui, dont plus de 50% de la population a moins de 35 ans. Donc, c'est... Une grande partie des Vietnamiens n'ont pas connu cette guerre-là. Par contre, c'est le récit fondateur du régime. Donc, elle est omniprésente. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une date à commémorer, là, par exemple, le 30 avril est un jour férié, c'est un jour où on va avoir toute la musique communiste qui va revenir, on va avoir des célébrations, notamment dans le Nord.
Les chants que l'on retrouve, d'ailleurs, dans la série Sympathizer.
Voilà, on a presque une religion civique, on pourrait dire, de l'État qui entretient cette mémoire-là, puisque c'est comme ça que le régime se justifie. Après, les Vietnamiens en eux-mêmes, alors bien sûr, avec très large de dire ça, mais souvent les gens de ma génération plutôt en ont souvent marre en fait d'entendre ça. On est presque, j'aurais envie de faire le parallèle avec les travaux qui ont été faits sur la France, sur le passage de la mémoire de l'occupation, en disant il faut une génération pour la vivre, une génération pour l'oublier, une génération pour la redécouvrir et après la sacraliser. Et nous on est entre la génération qui oublie et la génération qui redécouvre en ce moment au Vietnam, je pense.
En tout cas, totalement, il la maîtrise, sa thèse.
Nous, on vous le donne.
Oui, on vous l'accorde.
Franchement,
et tout ça sans aucune note, aucun papier. Ouais. La classe. Merci Antoine Lé. Dans le spectacle, on dit merde pour un spectacle quand il se lance. Je ne sais pas si pour une thèse,
ça marchera aussi.
Très bien.
Merci beaucoup.
Bien. Bonne journée, Antoine. Et voici la vision de Daniel Morin.
Ah, cette vision.
Quelle vision, Daniel ?
Oh oui, je l'ai eu, mon Agui, claro que si, mon Kiki. Cette vision, elle m'est venue, mais comme un choc.
Ah bon ?
J'étais en train de faire du shopping avec mon amoureux. On traînait assez devant les vitrines, et pour être honnête, rien ne retenait l'attention de mes pupilles. Tout ce que je voyais, franchement, c'était de la merde. Et mon Tanguy qui s'emballait. Oh, regarde ce petit jean, il est hyper sympa, je suis sûr, ça me fera un beau cul. Oh, et cette petite chemise ! Je te parie que les manches courtes, ça revient à la mode cet été. Oh, mais regarde-moi cette petite perruque, ça tirait vachement bien. Je suis sûr, si on fait des couettes, tu ressembles à Sheila. J'en pouvais plus. J'en pouvais plus, je m'emmerdais, mais tellement. Et puis on est rentré. Tanguy s'est enfermé dans la chambre pour essayer tout ce qu'il venait d'acheter. En ce temps-là, dans le salon, j'ai décidé de visionner la série The Sympathizer, série pour laquelle nous recevons notre invité. Espionnage, contre-espionnage, agent double, CIA, flingue, sexe, alcool, meurtre.
Waouh ! J'adore.
De Dieu de bordel, c'est ça la vraie vie.
Ouais.
Quand même autre chose que d'aller acheter une culotte chez Zara ou à Marcel chez H&M. Là voilà ma vision, les amis, la voilà. Pour un quotidien qui échappe au train-train, on se lance dans la vie d'espion. On s'invente un commanditaire qui nous confie une mission et hop, on y va.
Agent Dany ?
Oui ?
Le président Nagui a une mission pour vous.
Ok, j'écoute.
Un homme particulièrement fourbe essaye depuis longtemps de piquer des parts de marché au président Nagui sur France 2. Cet homme, c'est Cyril Ferraud.
Cyril Ferraud, le petit jeune avec des grandes dents.
Affirmatif. Eh bien justement, ces grandes dents, vous devez lui péter. Ordre du président.
Oh, mais il est super sympa, Cyril, ma mère l'adore.
Pétez aussi les dents de votre mère.
Ce serait top.
Enfin, qu'est-ce que vous me voulez ?
Je suis là pour t'éliminer, Cyril.
Mais j'ai rien fait !
Tu crois qu'on n'a pas vu clair dans ton jeu ?
On sait que tu veux piquer les émissions de Nagui.
Mais pas du tout. Si c'est pour tout le monde de prendre sa place, il l'animait plus depuis longtemps.
Grâce à un indique, on a trouvé des plans du studio de Taratata dans ton bureau.
Ok, c'est bon, j'avoue. Je voulais prendre sa place, mais pitié, laissez-moi une chance.
Négatif, Cyril. T'as déconné ? Tu vas payer.
Je peux savoir qui m'a trahi ?
C'est Drucker.
Mais pourquoi ?
Parce que lui aussi, il va reprendre Taratata. Ce serait génial. Bon. Alors voilà, Nagui. C'est ma vision pour une vie oui, beaucoup plus palpitante.
Mais tellement, tellement.
Alors bien sûr,
mais,
Nagui.
Mais ça,
je peux me tromper.
Non. Ça m'étonne.
Mais ça m'étonne. Ouais.
Je veux parler de moi parce que c'est un super sujet, mais aussi de tous ces gens tout le week-end qui m'ont ordonné de soutenir tel ou tel et qui m'ont dit ce que je devais dire de ma fête.
Nous parlons avec Marine Delterme de l'excellente série. On l'a pas assez dit à quel point elle était géniale, cette série, à quel point vous êtes formidable dedans. Série réalisée, menée par Park Chan-wook. Elle s'appelle The Sympathizer sur HBO. On en parle après les infos.
En ce moment, plus que jamais, la recherche est essentielle. Gustave Roussy, classé premier centre européen de lutte contre le cancer, a besoin de vous. Saviez-vous que vos impôts peuvent aider à guérir le cancer de l'adulte et de l'enfant au XXIe siècle? Grâce à votre don, déductible de l'impôt sur la fortune immobilière ou de l'impôt sur le revenu, vous vous joignez au combat des médecins, chercheurs et soignants engagés au quotidien au service des patients atteints de cancer. Gustave Roussy, l'espoir de guérir le cancer a un nom. Faites un don sur gustaveroussy.fr.
Hey! Les industriels, si vous m'entendez, c'est grâce à vous. Oui, vous, les fabricants de matériel audio, d'énergie